I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Ben, bienvenue dans l'épisode 207 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour la suite et la fin du DH20, notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA. Actuellement, je tiens d'ailleurs à rassurer le fan club de Tom, Pierre ne l'a pas assassiné après ses commentaires sur Westbrook. Enfin, pour l'instant, hein, le déconfinement est annoncé, donc bref, on s'avance pas. Pour m'accompagner, pour révéler le top 10, parce que oui, la semaine dernière, on s'est arrêté à la 10e place de Russell Westbrook, justement. Alors, j'avais d'abord besoin de quelqu'un capable de trancher dans le vif, on va dire. Capable d'avoir des avis tranchés et capable de sortir le Desert Eagle, si besoin. D'où la présence de Madiane. Ça va, Madiane ?
Ah, très bien, et toi ? Et oui, il est bien rangé à côté, il est prêt à être sorti.
Et ben, on l'attend avec impatience. Ça va très bien, Madiane. Et puis, il me fallait aussi, je vais dire, la voix de la sagesse. Quelqu'un avec de la raison, l'expérience. Ilias, ça va, Ilias ?
Salut les gars, en tout cas content d'être de retour après ces quelques semaines d'absence, prêt à échanger sur ce top 10.
Et tu reviens pour du lourd, pour du très 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 lourd, donc comme tu l'as dit, le top 10. On voit encore que j'essaye toujours de m'adapter, de m'élever, de misser au niveau d'Adrien pour les introductions, je patine, hein, mais on va y arriver. Le top 10 donc va être révélé juste après la pause. Avant ça, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et sur les plateformes où vous pouvez écouter le podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Cast Addict, bref, vous pouvez nous suivre partout. Merci à ceux d'ailleurs qui ont répondu à mon appel monquien et qui ont donc mis des notes sur Apple Podcast, ça fait très plaisir. On vous invite toujours à le faire parce que ça nous permet voilà, de faire découvrir le podcast à plus de monde hein, parce que ça, voilà, ça aide pour l'algorithme, soyons honnêtes. Et puis, j'en ai fini pour mon speech habituel. Nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la révélation du top 10. Avant, bien sûr, parce que je suis le roi du teasing, de vous révéler le top 10, un petit retour hein, par rapport à la semaine dernière. Si vous n'avez pas écouté l'épisode dans son intégralité avec Tom et moi-même, on vous invite à le faire. Un petit retour sur les choix de 20 à 10, donc avant de rentrer dans ce top 10. En 20e place, on retrouvait Klay Thompson, 19e, Karl-Anthony Towns, 18e, Jason Tatum, 17e, Kyrie Irving, 16e, Chris Paul, 15e, Bradley Beal, 14e, Paul George, 13e, Jimmy Butler, 12e, Joel Embiid, 11e, Nikola Jokic et 10e, Russell Westbrook. Avant de rentrer dans ce top 10, messieurs, vous n'étiez pas là la semaine dernière. Est-ce qu'il y a un petit commentaire par rapport à ce, parce qu'il y a beaucoup à dire, que ce soit sur ces choix de 20 à 10 ou sur les absents. Madiane, allez, je vais commencer par toi. Quelque chose à dire sur ces 10 premiers choix ?
Moi, j'ai un Westbrook qui est un peu plus bas déjà par rapport à ce qui a été fait. Et je pense qu'on en parlera un peu plus tard parce qu'on va évoquer le cas de quelqu'un avec qui maintenant il est lié dans la NBA. Mais en tout cas, moi, je l'ai plus bas parce que voilà, je trouve que ces playoffs n'ont jamais été convaincants récemment. Donc, clairement, pour moi, c'est plus bas. Et à côté de ça, moi, quand même, je fais rentrer un Gobert dans le top 20. Je le fais rentrer parce que, en fait, Tom parlait d'une chose qui était très intéressante, c'était la transition défensive-offensive de Utah tout en restant fort défensivement. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qui est intéressant. Et Gobert, c'est un peu leur... C'est peut-être pas sur lui que je compte pour... porter à balle, mettre l'action gagnante, etc. Mais c'est lui qui t'assure l'assise de base et c'est peut-être le gars le plus précieux qu'ils ont dans cette équipe. Et mine de rien, au vu de ce qu'il t'apporte au quotidien en saison régulière, le faire entrer dans le top 20, ça me paraissait important. Sinon, voilà, pas plus de commentaires sur le reste.
D'accord. Alors, je vais aller vers toi, Ilias, et je sais que tu as voulu mettre un peu en parallèle deux joueurs, donc je vais révéler le nom du neuvième. Le neuvième dans ce classement, c'est le meneur des Blazers de Portland, Damien Lillard. Il était 14e dans notre dernier classement. Alors, Ilias, pourquoi tu as voulu mettre un espèce de parallèle en place entre Russell Westbrook et Damien Lillard?
Alors, même si c'est deux styles assez différents, je dirais même quasiment opposés à leur poste, ça reste deux joueurs dont les destins ont été liés un peu ces dernières années. Et je pense que la position précédente de Lillard et l'actuelle aujourd'hui de Westbrook fait que elle est un peu interchangeable, dû justement au juge de paix qui a été un petit peu la série de playoffs de l'année dernière entre OKC et Portland, dans laquelle moi personnellement je m'attendais à voir les Blazers être complètement anéanti par OKC, d'autant que Paul George sortait d'une saison assez incroyable. Et après, je dirais que c'est là qu'on voit aussi un petit peu l'orgueil et le talent d'un joueur comme Lillard, c'est qu'il a su se servir un petit peu de tout ce que Westbrook lui avait mis à la gueule, que ce soit sur le terrain ou on va dire verbalement lors de certaines interviews. Il a réussi à s'en servir justement pour sortir peut-être la série de playoffs de sa carrière, ou en tout cas la plus marquante. On sait qu'il avait mis lors de sa saison rookie un buzzer exceptionnel contre les Rockets. Là, il a récidivé en faisant plus fort, plus loin et plus impactant. Donc je pense que je suis pas sûr qu'il y ait un gap aussi important entre Westbrook et Lillard, mais il y a deux juges de paix un petit peu dans ce classement général, je dirais. C'est évidemment la forme physique, les blessures et le révélateur suprême pour un joueur, les playoffs.
Clairement, je pense que Lillard fait partie de ces joueurs dont la mémoire récente, même si il y a eu quelques mois entre le vote et cette série de playoffs, c'est encore un panier que j'ai l'impression que je vois toutes les semaines atterrir dans ma timeline sur Twitter. Il ne se passe pas une semaine sans que je vois l'action du buzzer beater de Damien Lillard qui repasse. Donc clairement, je suis assez d'accord avec toi, je pense que ça a marqué. Moi, par rapport à Lillard, avant qu'on continue d'avancer, il y a un truc qui m'a un peu fait tiquer, c'est que je trouve que ça renvoie peut-être à une des dimensions dont j'ai parlé la semaine dernière, même si moins que d'autres de mes théories un peu fumeuses, c'est que je trouve que Lillard, lui, est un petit peu bloqué par le fait qu'il est... Je voulais le placer très haut, moi. Quand j'ai commencé à parler de ce classement, je me suis dit, Damien Lillard, je vais le placer extrêmement haut. Et je me suis dit qu'à un moment, mais il y a beaucoup trop de monde en haut. Il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de joueurs qui se sont affirmés. D'un côté, des joueurs qui sont toujours là depuis les derniers classements. D'autres qui ont explosé. On va revenir à la place numéro 8. Donc, en fait, Lillard, je l'aurais mis au-dessus du joueur dont on va parler dans quelques instants. Mais j'ai l'impression que lui aussi, il a un espèce de plafond de verre où tu peux pas honnêtement le mettre plus haut. Damien Lillard.
En fait, je pense, Ben, je me permets d'intervenir, que Lillard, en fait, c'est, il a vraiment switché d'une tendance à une autre en l'espace de 3 ans, parce que je pense que on l'aurait eu très très loin dans ce classement si on était 3 ans en arrière au sortir de la série face aux Pelicans, qui vraiment lui avait fait énormément de mal sur. Le plan purement médiatique, parce que il avait été totalement anéanti par Jrue Holiday notamment. Et je pense que la série face à OKC et à Westbrook, ça a justement été quelque chose un peu de salvateur pour lui, parce qu'il est passé de rien à quasiment tout. C'est-à-dire d'une série de playoffs où il a été totalement dominé par un joueur, en tout cas qui est censé être moins fort que lui, et par une équipe qui était normalement moins forte que les Blazers, et à une série où cette fois-ci il était un petit peu dans la peau de l'underdog, et face à un joueur comme Westbrook qui à cette époque-là en tout cas paraissait pour tout le monde comme supérieur à Lillard. Donc je pense que ça a énormément joué. Parfois un shoot, une action, une série de playoffs, un duel remporté face à quelqu'un peut changer littéralement on va dire les yeux du grand public sur ta personne.
Pas que, il y a aussi tout le storytelling autour de Nurkic qui se blesse juste avant.
Exact.
Et il y a vraiment de tout en fait. Il y a oh là là, les Blazers vont pas y arriver, ils ont perdu Nurkic, ça va être très difficile. En plus, en saison régulière, ils se sont fait battre régulièrement par OKC et ils renversent la table. C'est vraiment ça, c'est l'effet de renverser la table que magnifie. Moi, je suis d'accord avec Ben par rapport à l'autre joueur qui est rentré de manière fracassante dans le top 10. Je l'ai un cran au-dessus à cause des playoffs, clairement, où il a quand même été au niveau, il y a pas à dire. Moi, j'ai juste en travers sur sa dernière campagne de playoffs, son Game 7 face aux Nuggets, où il a été cataclysmique, clairement. Il est sauvé par CJ McCollum, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment pas bon.
C'est vrai.
Par contre, sur cette saison, juste 55,4 au tir réel, il est prêt à loin de 40% derrière l'arc. Il a eu un moment de feu en début d'année où il balançait des pions sur tout ce qui bougeait. Clairement, il rentrait sur le terrain, il balançait 40. Enfin, il est bon hein, cette année, mais son équipe est un peu moins forte. Je pense que typiquement, si ça se confirme, clairement, il ne va pas faire les playoffs cette année si les playoffs ont lieu. Moi, je pense que sa tendance peut par exemple s'inverser avec un Jimmy Butler. Faut faire attention, ou un Joel Embiid, ce genre de joueurs qui, s'ils font des bons éventuels playoffs cette année, peuvent lui passer devant dans mon esprit en se disant, ouais, il n'a pas réussi à faire le cut pour les playoffs. C'était certes difficile, mais il n'y est pas. Et si je vois des joueurs comme ça, comme Butler ou Embiid, qui font des bonnes campagnes, pour moi, ils seraient capables de lui passer devant.
On avance d'un cran, on remonte donc à la 8e place. On en a déjà un peu parlé en filigrane de joueurs là. Entrée fracassante, comme l'a dit Pierre, parce qu'il faut savoir. Pierre, oula, Madiane, parce que j'ai vu Westbrook, donc j'ai tout de suite dit, Pierre, réflexe
C'est
Pavlovien.
machinal, ouais.
Luka Doncic, c'est de très 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 loin l'entrée la plus fracassante. Aucun joueur du top 10 n'était absent avant. Ilias, je vais retourner vers toi. Est-ce que c'est pas un peu tôt? On l'a dit beaucoup, tu l'as dit toi-même il y a quelques minutes, les playoffs restent un juge de paix. Alors, on sait que un joueur comme Luka Doncic a joué des matchs importants en Europe, mais on l'a jamais vu jouer des matchs importants en NBA. Est-ce que c'est pas un poil tôt pour le mettre à ce niveau-là, c'est-à-dire parmi le gratin du gratin de la NBA?
Ça peut le paraître, mais un petit peu à l'image d'un joueur dont on va parler un petit peu plus en tête de classement, oui, les playoffs sont un juge de paix, mais il y a des joueurs comme Luka et comme le joueur dont on va parler tout à l'heure qui ont, on va dire, une dérogation. C'est-à-dire que les mecs, ils sont tellement forts, c'est-à-dire que pour pouvoir bousculer un petit peu un ordre établi avec des critères aussi important que les playoffs, il faut sortir quelque chose d'assez exceptionnel. Et on va dire que ce que fait Doncic actuellement avec les Mavs, qui dans une équipe qui selon moi n'est pas extrêmement bien bâtie, certes bien coachée, mais pas extrêmement bien bâtie dans l'immédiat pour pouvoir faire quoi que ce soit, je trouve que déjà rien que leur position actuelle au classement permet à Doncic au moins de frapper à la porte du top 10. Et on va dire que je vois rien de scandaleux à sa présence en neuf, même si je pense qu'aujourd'hui, des joueurs, par exemple, comme Paul George, lui sont supérieurs, voire comme Jimmy Butler. Mais on va dire qu'ils sont pénalisés, comme vous le disiez la semaine dernière, par le fait qu'il ne soit pas le leader de son équipe, par exemple, pour Paul George, d'autant qu'il a en plus raté des matchs. Là, on parle de Doncic et du haut de ses 20 balais, bah, il est en train de dominer un petit peu à son niveau, de mener les Mavs à un bilan très correct et de produire des chiffres qui sont assez incroyables. Donc, moi, sa place, personnellement, elle ne me surprend pas et je la valide personnellement.
Madiane, avant ça, avant de te redonner la parole, je vais un peu expliquer. Moi, de mon côté, alors moi, j'ai un espèce de no man's land où, avant d'aborder les sept premiers qui pour moi se détachent un peu, j'ai un espèce de no man's land avec Lillard, un joueur qui est dans le top 7 dont on va parler, que je décroche peut-être un petit peu par rapport à, je dirais, le consensus général, et Doncic, et puis le reste. Après, j'ai un peu un trio qui est, c'est-à-dire très fort joueur, mais peut-être pas la validation playoff, parce qu'en l'occurrence, la dérogation que donne Ilias, et que je comprends, parce qu'on est obligé de mettre en place pour un joueur très très haut, entre parenthèses, vous avez compris qu'on parle de Giannis, pour moi, c'est tellement. Peut-être que Doncic n'est pas encore à ce niveau-là de performance pour obtenir cette dérogation, selon moi. Mais après, encore une fois, je comprends un peu ce point de vue. Madiane, est-ce que Doncic, en quelques mots, c'est un peu tôt peut-être pour le faire entrer top 10, ou alors bah, la saison régulière peut servir quand on a un talent générationnel comme ça pour le faire entrer si haut?
J'ai beaucoup hésité. Moi, je m'inscris en faux sur les Mavs. Moi, je les voyais plus faibles que ce qu'ils étaient. Il faut pas oublier que Doncic, il a loupé des matchs hein, cette année, et les Mavs, ça tournait quand même. Il faut pas. Enfin, je pense que l'arrivée des Mavs dans les playoffs, c'est une surperformance de leurs meilleurs joueurs, certes, mais c'est aussi une surperformance d'équipe. Est-ce qu'on lui donne pas trop de crédit pour le retour des Mavs en playoff? Parce que moi, j'ai quand même l'impression que l'équipe est plutôt mieux bâtie que ce que j'aurais pu parier en début de saison. Après, à côté de ça, oui, il est dingue. Un sophomore qui tourne à 28,7, 9,3, 8,7. Enfin,
C'est incroyable.
j'ai pas de mots. C'est clairement dingue. Maintenant, pas de juge de paix, de playoff. Pour moi, je le laisse quand même top 10. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai quand même des doutes sur les playoffs de pas mal de monde qui finalement n'ont pas fait le top 10. Enfin, on peut réclamer beaucoup, mais si un joueur comme Lillard, je le mets devant parce qu'effectivement, en playoff, il a fait un truc de dingue, clairement l'an passé. Donc, ok, je le passe devant. Après, il faudrait que j'arrive à sortir la même justification pour un PG, un Westbrook, un Jokic, un Embiid, un Butler. Et là, j'ai beaucoup plus de mal à trouver de vraies références, mais dingue, 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 qui justifieraient de le passer devant Doncic. Alors, ok, pour le juge de paix playoff, mais en fait, finalement, les types qui ont des vraies références en playoff, ils sont souvent allés minimum finale de conf. Et quand on regarde, en fait, ça se resserre pas mal, il n'y a pas tant de monde que ça. Donc, pour moi, finalement, il peut mériter son top 10. Évidemment, les gars de devant, bah, ils ont des références en playoff, il ne pourra pas les toucher à date. Par contre, Doncic, il fait des bons playoffs. Genre, mettons que les Mavs passent deux tours à la surprise générale. Là, c'est pas top 10, c'est top 5.
Ok, petite question en un mot, parce que dans ces classements-là, il faut aussi parfois, allez, on va un peu se projeter. Si vous deviez parier sur la place de Luka Doncic, disons qu'on fait un petit peu le même écart qu'avec le premier classement dans 2 ans et demi. On va dire qu'on est à la fin de la saison 2022. Il se trouve où, Luka Doncic? Il est top 5?
Top 5. Top 5. Je
Ok.
pense
Moi,
qu'il
ouais,
peut
ouais.
prendre un MVP.
Ouais.
Ok. Donc,
Des
c'est
mecs
pour
comme
ça que
LeBron,
c'est.
auront peut-être enfin entamé leur déclin à ce moment-là et Doncic aura peut-être upgradé à ce niveau-là.
Ok, donc très 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 fort. On continue à avancer. 7e et 8e place pour d'anciens coéquipiers. Stephen Curry, très proche en termes de vote de Luka Doncic, à la 7e place et Kevin Durant, 6e. Alors, avant que certains de nos auditeurs balancent leur téléphone contre le mur, etc., il est important de noter que certains votants n'ont pas rentré Kevin Durant et Stephen Curry dans leur classement. Alors, ça peut se comprendre parce qu'on va en parler, hein, on ne donne pas de critères. C'est-à-dire que certains ont pu se dire, je ne peux pas juger ces joueurs-là, ils ont été blessés. Je le comprends parfaitement. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde le détail du classement pour ces deux joueurs, on remarque que Kevin Durant, bien souvent, quand il est présent, c'est un joueur qui est soit deuxième, soit troisième. Et Stephen Curry, c'est un joueur qui se retrouve à aller 4, 5, 6. Madiane, est-ce que c'est leur réel classement, du coup? C'est-à-dire en bonne santé? Est-ce que 2-3 pour Kevin Durant, 4-5-6 pour Stephen Curry, on est dans cette zone-là pour ces joueurs-là?
Je vais commencer par Curry. Pour moi, en fait, il pâtit du fait qu'il a joué avec KD pendant 3 saisons. Mais on parle souvent des playoffs, du juge de play, des playoffs, etc. Il a passé quand même une bonne partie des playoffs l'an passé sans KD. Et il sort Houston, il défonce Portland. Et il aura fallu vraiment que tout le monde soit blessé dans son équipe pour qu'ils finissent par rendre les armes en finale NBA face à une équipe de Toronto qui était archi forte. Mais vraiment archi forte. On le voit cette année, ils n'ont pas Kawhi, ils s'en foutent. Ils sont très forts. Et je trouve qu'on lui manque un peu de respect par rapport à ce qu'il est. Je pense que en santé, bah, c'est même en santé, je vois pas ce qu'il peut envier à Harden. Je vois pas. Il le bat, hein. Il le bat face to face sans KD l'an passé, clairement. Et il le bat à Houston. Donc, Faut voir. Moi, je pense que l'an prochain, Curry va jouer beaucoup de sa réputation parce qu'il va avoir un petit trio Wiggins, Clay, Green. Tu leur colles un pivot à peu près décent et je pense qu'il va falloir voir ce que ça donne. Curry de retour en première option avec le jeu des Warriors. Et enfin, il peut clairement revenir dans le top 5. Clairement. Et certes, il n'a pas de MVP des finales. On en parle énormément, etc. Moi, je trouve que c'est un faux argument. Curry, c'est dingue ce qu'il fait sur un terrain. C'est un mec qui a changé de jeu et s'il revient en santé, pour moi, enfin, je vois pas. Entre lui et Harden, je vois pas en quoi Harden est supérieur. Je vois pas pourquoi je prendrais Harden devant Curry. Et pour KD, pour moi, il discute top 1 s'il est en santé. Il discute même pas top 3, c'est pour moi, il discute top 1. Avec LeBron et je commence à penser qu'il a peut-être l'avantage parce que l'an dernier en playoff sans sa blessure à ce moment-là il tournait à 32 points en 50 40 90. C'est chaud. C'est chaud. 50 40 90 en playoff à plus de 30 points, c'est extrêmement sérieux. Alors certes, il n'a pas joué tous les matchs, OK, mais c'est très sérieux. Maintenant, c'est tendon d'Achille et les deux derniers c'est Rudy Gay et de Marcus Cousins. Et c'est pas annonciateur de bonnes nouvelles. Et il va pas rejouer cette année. Donc
Ouais.
Madiane, alors je vais reprendre un des arguments de Madiane pour aller vers toi, Elias, parce que j'attendais ces quelques mots-là. Il a changé le jeu. Je sais qu'Elias, toi et moi, on aime bien la musique. J'ai l'impression qu'avec Stephen Curry, sans que ça soit extrême et que ça change la vision qu'on a du joueur, on a tendance à prendre cette révolution, on a tendance à prendre en compte ce qu'il a fait pour changer le jeu dans son placement en tant que joueur NBA. Ce que je trouve pas tellement cohérent parce que certes, Stephen Curry a révolutionné la NBA, c'est clair, mais ça ne doit pas influencer, c'est pas un classement sur l'influence qu'on a dans le jeu NBA. Influence, je comprends, en termes de changement qu'on a pu faire de la façon dont on joue le basket. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et puis plus largement, est-ce que tu es d'accord sur le classement du duo Curry-Durant?
Alors, déjà pour calmer un peu l'ardeur de nos auditeurs qui seraient un petit peu scandalisés par le classement de ces deux joueurs, pour ma part, c'est deux joueurs que j'ai facilement dans le top 5, dont un dans le top 3, s'ils sont tout à fait aptes à jouer. Donc à ce niveau-là, il y a absolument aucun problème. Après, concernant ta question, Ben, moi, je suis un petit peu plus nuancé concernant la position de game changer de Curry sur un aspect historique lié au jeu, parce que je dirais que c'est plus les Warriors qui ont révolutionné le jeu, plus que Curry de façon individuelle. Curry, la seule chose qu'il a eu à faire, c'est prendre des pull-ups à 3 points à 8 mètres, chose que effectivement on ne voyait pas de façon totalement courante, même si on voit qu'aujourd'hui des mecs comme Lillard sont en train encore un peu de repousser les limites. Mais c'est sur le plan collectif que les Warriors ont développé ça, d'autant qu'on sait que Curry, et c'est peut-être une de ses limites en tant que joueur, ça reste malgré tout quelqu'un de très très fort individuellement, mais qui a quand même besoin d'un collectif et d'un système bien particulier et huilé pour pouvoir donner sa plénitude. C'est la raison pour laquelle des deux blessures, partant du principe que KD est beaucoup plus fort individuellement pour créer et générer des actions offensives, c'est vraiment des deux blessures graves que sont celles de KD et Curry. C'est celle de Curry qui, justement, était une petite curiosité selon moi, c'est-à-dire j'aurais vraiment aimé le voir apte cette saison, c'est-à-dire avec le départ de KD et avec l'absence de Klay Thompson, voir ce qu'aurait pu donner Curry en option unique de quasiment de son équipe sur le plan offensif, de manière à voir vraiment si cette révolution dont on parle tant allait avoir également lieu quand il est un petit peu moins bien entouré.
C'est vrai que pour un peu, pas contredire, mais nuancer ce que tu as pu dire, Madiane, moi j'ai beaucoup entendu ce que tu as pu dire sur le fait que la saison prochaine allait être un juge de paix pour Stephen Curry. Je l'ai entendu l'année dernière avant le début de la saison 2019-2020,
Tout à fait.
où on a dit
Mais il s'est
beaucoup,
blessé.
oui, voilà, où on a dit beaucoup, c'est le moment où Curry doit faire. Voilà, doit montrer que même avec un niveau autour de lui et des compléments un peu moins forts, ah, attention, complément pour Kevin Durant, c'est presque une insulte, avec des joueurs autour de lui un peu moins forts, il est capable d'assurer au bon niveau. Donc c'est sûr que pour Curry, 2020-2021, ce sera une année charnière. On va y revenir, mais pour moi, 2020-2021 va chambouler tout ce classement, en fait. Il y a des joueurs, pour beaucoup, leur destin va être extrêmement impacté par 2020-2021. Enfin, parenthèse,
Moi, je te dis, juste pour conclure, ouais, Ben, ouais. Vraiment, ça me tracasse parce que vraiment... c'est-à-dire que moi, j'ai répondu à ta question par le fait d'en poser une autre, parce que justement, je suis pas sûr, en fait, là où tout le monde attendait un Curry en mode 2016 qui allait nous coller 35 points par match et qui allait soulever le trophée de MVP à la fin de la saison, moi, je suis très, très dubitatif par rapport à ça.
Ouais, je pense d'accord.
Je pense pas que les Warriors auraient été dans les méandres du classement comme ils le sont actuellement, mais je suis pas sûr non plus qu'ils auraient, par exemple, tutoyé le. Je suis pas sûr qu'ils auraient, par exemple, eu l'avantage du terrain en playoff.
Non, mais par contre, faut pas qu'on oublie un truc. Le Game 3 qui joue en finale, c'est un Game 3 de finale NBA. Il en a planté 47, il n'y a pas clé. Hein.
Oui.
Il est tout seul, hein. Il seul tout, et il a la balle, et il en met 47 sur la tête des Raptors, qui sont plutôt sérieux. Donc, oui, j'entends, etc., mais faut pas oublier que les Warriors, enfin, c'est la remarque, je crois, qu'avait fait Pierre cette année, qui disait quand même, ces enfoirés, ils tankent, mais ils tankent salement proprement, parce que ça joue bien. Et je pense que, mine de rien, il y a un truc qui est important, c'est que, même si t'as pas les joueurs, il y a quand même un espèce de fond de jeu qui subsiste dans cette équipe. Alors, peut-être qu'il le ferait pas dans une autre équipe, ça, je veux bien l'entendre, mais moi, je pense que sans clé, il est tout à fait capable de balancer un camion de points sur beaucoup d'équipes.
Ah, je suis d'accord
bien
avec
sûr.
Ça.
Ouais.
Après, juste pour conclure, par rapport à... C'est vrai qu'il y a cette performance au match 3 des finales. Après, on est sur un tel niveau d'excellence dans les places dans lesquelles dont on parle, que je trouve que c'est certes un argument, mais quand on parle du top 3, top 4, top 5 NBA, c'est des performances, je ne vais pas dire qu'on doit les attendre, mais c'est des trucs... Enfin voilà, c'est certes impressionnant, mais c'est des performances que ont en l'occurrence dans leur bagage certains des mecs dont on va parler après.
Ah oui, oui. Donc à part un seul
qui est un des vrais débats, parce qu'il y a encore beaucoup de débats dans ce top 6 maintenant qu'on va aborder, top 5 d'ailleurs, pardon. On entre dans le top 5 avec à la 5e place Anthony Davis. À noter que parmi ces 7 joueurs, donc, hein, c'est-à-dire avec Kevin Durant et Stephen Curry, c'est le seul qui n'a pas eu de première place et ni de deuxième place. Et il a une petite troisième place. C'est-à-dire que Anthony Davis, de ce qu'on peut voir, gagne plus sur la régularité par rapport à un Durant et un Curry que sur les places qui lui sont attribuées. Clairement, je vais me retourner vers toi, Madiane. Est-ce que c'est un des grands gagnants? Est-ce que c'est un des grands gagnants de la méforme des deux joueurs dont on a parlé? C'est-à-dire qu'il aurait pu se retrouver deux spots en dessous sans faire à jour à sa saison, hein, qui est très très forte et qui est dans la lumière cette fois-ci du côté des Lakers. Est-ce que c'est quelqu'un voilà, qui se hisse un peu plus haut grâce à ses entre guillemets absents?
Oui, et c'est un double gagnant là-dessus, c'est-à-dire qu'il a deux absents et aussi il est dans une équipe qui tourne et qui tourne sans avoir foncièrement besoin de lui. Les Lakers de cette année ça tourne mais extrêmement bien et c'est pas lui le mal alpha, c'est pas lui le mal alpha et ça lui fait du bien parce qu'il peut se reposer, il peut plus se gérer et mais de rien il fait une saison dingue hein. Pour moi c'est le défenseur de l'année mais c'est pas lui qui prend l'équipe en main et mine de rien c'est dans ce classement c'est une exception, il y a Paul George, il y a Westbrook. Et après c'est tout quasiment qui ne sont pas éclés dans le top 20, qui ne sont pas les mal alpha de leurs équipes et qui y sont. Donc c'est extrêmement intéressant quand même d'observer ça. Donc il est dans ce top, mais c'est vrai qu'il bénéficie énormément de la non-forme et du fait que les deux autres ne jouent pas. Clairement il passerait en dessous parce qu'il n'est pas le franchise player de son équipe déjà. Par contre, il a des références en saison régulière, il a des cartons, il a des références en play-off, clairement.
Avec la grande exception de Giannis, dont on va parler, c'est quand même des 8 premiers, celui qui a de très loin les moins grosses références en play-off.
Oui. Par contre, parce qu'en fait, il a souvent perdu. Mais justement, moi, c'est ma curiosité. C'est voilà, maintenant, t'es avec LeBron et c'est le moment, quoi. Et c'est à voir, en fait. C'est un mystère de savoir parce que là, il joue pas au max la demi-finale de conf ou la finale de conf. Là, il joue la victoire. Et c'est un autre univers, c'est un autre domaine. Moi, franchement, j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Et moi, je me pose une question sur la suite. Parce que, mine de rien, normalement, c'est quand même à lui de takeover ces Lakers à terme. Parce que LeBron, il a 35 ans. Et ça, c'est une autre question. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il est capable de reprendre ensuite ce rôle de numéro 1 dans une équipe qui joue le titre? Ça va être aussi ce qui lui permettra de rester dans ce top 5. Parce que là, clairement, si t'es franchise player, pour être top 5, c'est le titre ou rien.
Ilias, je vais retourner vers toi avec la même question par rapport à, en quelques mots, à Anthony Davis. Est-ce qu'il profite de ça? Après, encore une fois, pas de. Après, Pierre, cette fois, c'est Tom qui va me tomber dessus, parce que je manque de respect à Anthony Davis. Très fort joueur, Anthony Davis. On ne dit pas ça, on dit juste que, il a des joueurs peut-être un peu plus forts que lui derrière et qui n'ont pas su profiter de ça. Je rejoins d'ailleurs Madiane sur ce point. C'est vrai qu'à corriger par rapport à la semaine dernière, j'avais dit que Paul George était la seconde option la plus haute. C'est Anthony Davis. Après, je pense qu'on est peut-être avec Anthony Davis plus sur une relation 1A-1B. Un petit a...
Totalement,
Ouais.
totalement, parce que en plus il y a quelque chose qui ne trompe pas concernant Anthony Davis, c'est que effectivement LeBron est le mâle alpha et est le patron charismatique de l'équipe. Ça, il y a absolument aucun problème. De toute façon, par sa simple présence et l'exposition de son CV, LeBron, il mettrait en fait tout le monde derrière lui dans cette ligue. Le truc, c'est que il a une particularité, Anthony Davis, c'est que par rapport à LeBron, il a beau être derrière sur le plan de la hiérarchie, il n'en demeure pas moins le leader statistique au point, au rebond, au contre et aux interceptions de son équipe. Là où LeBron est uniquement en fait dans le rôle en fait un petit peu du serviteur entre guillemets du serviteur de luxe parce que il est meilleur passeur de la ligue et de son équipe, mais c'est quelque chose d'assez paradoxal justement, c'est-à-dire qu'on voit rarement des secondes options d'équipe en fait dominer quasiment toutes les catégories statistiques de leur franchise. Et au-delà de ça, moi je suis personnellement ravi de la tournure qui est en train de prendre la carrière d'Anthony Davis parce que je pense qu'il était pas forcément bien loti à New Orleans sur le plan déjà de son effectif, des blessures qui l'ont atteint. On voit que même cette année, malgré certains pépins physiques, il continue quand même à jouer sous la douleur. Et surtout, c'est le patron défensif de ces Lakers. Si aujourd'hui les Lakers sont la meilleure ou une des deux meilleures défenses de la ligue, c'est en grande partie dû à la présence de Anthony Davis et par moments aussi, pour faire plaisir à Ben, de celle de Dwight Howard.
Ah, il sait mettre les bons mots, Ilias. C'est l'art des bons mots. On va continuer.
Mais
Je vous rejoins.
effectivement, enfin, concernant son classement pur, effectivement, je pense qu'on aurait facilement KD et Curry devant lui si forcément ils étaient sur pied, même si par moment, enfin, Anthony Davis visuellement en plus, hein, il a une capacité à dominer que parfois personne n'a dans cette ligue. Hein. C'est assez incroyable ce qu'il est capable de faire avec son gabarit.
On va continuer. Et oui, je disais globalement, je suis assez d'accord avec vous. Il est là où il devrait être, c'est-à-dire sans les blessures, il aurait été 7, 6-7, quelque chose comme ça. Ça rejoint son classement, c'est-à-dire joueur extrêmement dominant. Il n'y a peut-être pas le CV playoff qui, moi, me suffit pour mettre quelqu'un plus haut. Oui, je suis un névrosé des playoffs, mais ça reste Anthony Davis, c'est extrêmement dominant. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Quatrième place pour James Harden. Alors, encore une fois, assez intéressant quand on regarde le découpage des votes. C'est extrêmement intéressant de voir qu'il est quatrième. Il est donc devant un Stephen Curry, devant surtout un Kevin Durant. Mais alors, Kevin Durant l'explose pour ce qui est des classements dans la première, deuxième et troisième place. C'est-à-dire que tout le monde a l'air d'accord pour dire que James Harden n'est pas top 3 NBA, mais qu'il est juste derrière. Madiane, est-ce que tu es d'accord avec ça? Premièrement, est-ce que aussi, il n'y a pas, et là je te grille ce que tu m'as dit en off, est-ce que tu trouves pas qu'il est un petit peu mal aimé, James Harden?
C'est le joueur le plus détesté de la ligue à l'heure actuelle, non?
Ah,
Enfin, je vois pas qui le bat.
C'est vrai qu'il est assez détesté. Hein.
Mais je pense que c'est moins, enfin, je sais pas comment expliciter ça, mais c'est moins une haine. C'est plus une haine stylistique que physique à la. Bah, par exemple,
Ah
on va
oui,
prendre un
c'est lié
genre.
à son jeu. C'est
Ouais,
lié à
c'est.
son
Ah
jeu,
oui, c'est
totalement,
son
Ben.
jeu.
Oui, bien
C'est
sûr.
pas une haine genre Westbrook où il y a limite plus que ça, j'ai l'impression. ou une haine à la Durant, où il y a plus que ça.
Non, c'est pas ses déclarations, c'est pas sa façon de se comporter, c'est vraiment comment il joue. C'est vraiment son jeu, on le déteste pour ça. Et pourtant, il met 34 points par match, c'est une dinguerie. Par contre, moi je me pose des questions, c'est est-ce que tu vas gagner comme ça? Et je voudrais développer un truc autour de ça, c'est qu'en fait je trouve qu'il n'est pas assez efficace pour faire ce qu'il fait. En play-off, en saison régulière ça marche. Mais en fait en play-off, moi je pense à ce que fait un KD. KD en play-off, avec très peu de tirs, il te plante beaucoup de points dans la tête. Il te fait extrêmement mal, il est extrêmement efficace. Et du coup, ça justifie qu'il puisse parfois monopoliser ton ballon en isolation, parce qu'en fait, il est tellement fort que c'est trop efficace et que du coup, ça justifie de ne pas faire tourner le ballon. Le problème que tu vas avoir avec un Harden, et je trouve que la série de 3 points manqués qui est arrivée à Houston il y a 2 ans maintenant, elle reflète un peu ça, c'est que Harden ne partage pas le ballon assez et que du coup, ses coéquipiers ne sont pas en rythme parfois, et du coup, quand t'as tes shooters qui sont hors rythme et que tu les serres, ils vont moins réussir. Et du coup, il n'a pas l'efficacité d'un KD, donc pour moi, il ne peut pas se permettre de faire ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai des doutes sur le fait de est-ce qu'ils vont réussir à gagner ainsi. C'est vraiment le truc avec Harden qui me fait poser des questions. Le ballon ne tourne pas assez, et comme il n'est pas efficace au niveau d'un KD, le fait que le ballon ne tourne pas assez et que t'es tout le reste de tes coéquipiers en rythme, c'est un problème.
J'ai aussi l'impression que Harden, en fait, de par son style de jeu, est son propre stopper, en fait. On n'a pas de forcément de Harden stopper qui existe dans la ligue ou qui s'est autoproclamé ainsi, c'est-à-dire qu'on n'a pas de joueur qui est véritablement devenu la kryptonite de James Harden. C'est juste, en fait, à force de ne pas varier son jeu et de s'engouffrer, en fait, dans ce style qui est fait que de shoot extérieur, en fait. Alors que en drive, c'est quelqu'un d'absolument inarrêtable, de par en plus le fait qu'il soit gaucher, il trouve sans arrêt des angles assez incroyables pour aller chercher des fautes, etc. Mais j'ai l'impression, en fait, qu'il se pose une limite qui est celle de s'entêter à continuer à jouer comme il le fait en play-off, comme il le fait en saison régulière. Alors qu'on sait que les arbitres sont moins enclins à siffler, que les défenses sont beaucoup plus resserrées, que la fatigue vient s'y mêler. Faut vraiment qu'il fasse vraiment une évolution et une autocritique de sa personne qui lui permettrait, surtout dans un premier temps, pourquoi pas, de s'appuyer un petit peu plus sur les joueurs qu'il a autour, parce qu'il a une capacité de création qui est assez incroyable, mais aussi un petit peu de changer son jeu et de le varier un petit peu, comme disait Madiane, à l'image de KD.
Je reste persuadé que la domination, il écrase tellement que t'es obligé de le mettre là, mais je vous rejoins complètement sur le fait qu'il il doit avoir une petite adaptation qui doit se faire à ce moment-là et qui va devoir se faire vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui lui reste, on va être honnête. Il est dans la génération, tous les joueurs sont au top à l'heure actuelle. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un joueur qui a 4-5 ans de retard sur les joueurs dont on va parler dans le top 5.
Ouais, et en fait,
mais il ne va pas la faire. Hein.
Ouais.
Il ne va pas faire son adaptation. Il est dans une organisation où il a à la fois son coach et son GM qui sont partis dans le même délire que lui.
Ouais, c'est un jusqu'au boutisme totalement assumé. Ouais.
Alors, et ils assument. Hein. Ils vont gagner ou perdre avec ce truc-là. C'est comme la série de 3 points. Ils ont vécu et ils sont morts aux 3 points. C'est comme ça. Ils vont mourir avec leurs idées.
Mais justement, pourquoi paradoxalement, pas concernant Harden, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est justement qu'il aurait dû un petit peu plus sentir l'odeur du sang. L'année dernière, quand KD se blesse, quand il se fait le tendon d'Achille dans le match de la série face à Houston, c'est à ce moment-là que justement James Harden il doit prendre les choses en main et justement essayer d'aller chercher le match. Et c'est justement le match qu'il a choisi pour arrêter de shooter. Et on parlera justement d'un joueur qui est plus tard dans le classement qui avait su en profiter. Bon, x10, mais bon.
Après, par rapport à ça, si je peux un peu défendre les Rockets, c'est quand même de toutes les équipes, et mon Dieu qu'il y en a en NBA, et James Harden au premier chef avec ses Rockets, c'est quand même les premières victimes, avec peut-être LeBron, il y a débat, de la domination Warriors. C'est-à-dire qu'ils tombent toujours contre les Warriors, en gros.
C'est vrai.
Ils tombent toujours contre les Warriors, c'est-à-dire que On peut lui mettre ça dans les arguments pour un James Harden qui, certes, même, et bon Dieu, certains doivent se dire que je me retourne ma veste, mais c'est pas le cas, j'essaie un peu d'être mesuré, qu'il a, certes, il y a des moments où je trouve qu'il était à côté de son statut de top 5 NBA en playoff, mais il est quand même tombé sur ce qui se fait de mieux depuis des décennies, donc il y a aussi ça qui a pu jouer contre lui.
Ouais.
On va rentrer dans le top 3. Alors là, je vais faire quelque chose pour le top 3, c'est que je ne vais pas monter un par un. On va directement, et je vais vous donner le top 3. Troisième place pour Kawhi Leonard. Deuxième place pour Giannis Antetokounmpo. Première place, et c'est un plébiscite. Hein. Quand on regarde le détail des votes, LeBron, allez, deux tiers des classements, LeBron est premier pour LeBron James. Donc, première question, messieurs, avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. Est-ce que LeBron James est à ce point le meilleur joueur NBA sans discussion possible? Ou est-ce que le CV joue beaucoup?
J'ai du mal. Je t'avoue que j'ai du mal également. Je pense que le CV joue beaucoup. Alors, monsieur est visiblement pas content, c'est sûr. Il a 35 ans et il tourne. Il est le meilleur passeur de la ligue avec plus de 25 points par match. Ok. Mais sa campagne 2018 était folle. Et il perd en finale. Et personne ne peut lui en vouloir pour ça. En 2019, les Lakers sont quatrième, ils se blessent, et après, c'est le trou noir. Et là, il est extrêmement mieux entouré. Et du coup, en fait, j'arrive pas à juger. Alors oui, il est fort, mais j'arrive pas à me dire que c'est le mal alpha, alpha ultime. Et si on prend juste la dernière année, hein, Kevin Durant m'a montré beaucoup plus qu'à LeBron James. Alors KD est blessé, mais KD en santé... Je le place devant, je pense. Est-ce qu'il est plus fort que Kawhi? J'en sais rien, en fait, c'est une énigme. En fait, déjà, on n'arrive pas à savoir parce qu'on n'a pas de référence de playoff. On a une saison l'an dernier, je ne sais pas si c'est une parenthèse ou un vrai signe de déclin. Enfin, je me pose des questions, en fait. Et là, comme il a Eddie à côté, on le voit moins en avant. Et du coup, c'est plus difficile à juger. C'est extrêmement dur à juger, en fait. De base, je dirais oui, parce qu'on ne m'a pas prouvé le contraire. Mais je n'ai pas de preuve significative qu'il est toujours numéro 1.
Je vais te donner la parole, Ilias, juste peut-être en étayant ce que j'ai pu dire la semaine dernière. En fait, et je vais rebondir sur ce que tu as dit à la fin, Madiane. Je n'ai pas de preuve qu'il est plus numéro 1. On est un petit peu dans cette situation de vide. Et moi, c'est un truc dont je parle pas vraiment dans le podcast, mais beaucoup avec l'équipe depuis quelques années. Moi, en fait, tout simplement, on est dans une situation où le fait que les Browns soient à l'Est et rajouter à ça les Warriors font que ça fait combien d'années que j'ai pas eu de juge de paix. Moi, vraiment, pour classer les Kawhi, Durant, les Browns, pour moi, pour remonter à une série significative, et peut-être que je remonte trop loin, hein, il faut remonter à 2016 et la série entre Kawhi et le Thunder d'Oklahoma City. Je trouve que c'est la dernière fois que deux de ces trois joueurs-là se sont affrontés sur un terrain que je dirais équitable. Depuis ça, LeBron a joué contre des équipes des Warriors beaucoup trop fortes pour celles des Cavs. C'est-à-dire que on est à un moment où ils devaient tellement faire leur meilleur orchestre que c'est comment on peut juger dans ce contexte-là, c'est extrêmement difficile. Kawhi ne joue pas grand monde aussi. Et puis par rapport à LeBron et à ses séries de playoffs, c'est là où je vais terminer. Combien on prend sa dernière série de playoffs à l'Est, qui est fantastique. Je n'enlève rien à ça. Ilias, Madiane, il y a combien de joueurs de notre top 20 durant cette série de campagne de playoffs que LeBron affronte?
Il n'y a que KD en finale et Curry, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, mais avant la finale. Mais après, il joue avec des pantins. Donc,
ouais, c'est ça.
En fait, c'est ça.
Le problème, c'est qu'il a une équipe nulle et il affronte des joueurs, des équipes pas ultra fortes.
Il y a ça. Et en fait, ce qu'il fait en 2018, ça relève en fait de la normale. Ce qu'il fait en 2018 ou ce qu'il a pu faire en 2007, on prend ça pour argent comptant. On essaye un petit peu de contextualiser, d'y mêler le classement qu'on est en train de faire. Mais au final, c'est peut-être aussi pour ça que LeBron est autant respecté par nos auditeurs et qu'il a obtenu cette première place, parce que ce qu'il a fait, ça relève de la normale. 2018, son run de playoff, c'est totalement n'importe quoi. Ce qu'il fait tour après tour, ce qu'il fait par exemple face aux Raptors, les Raptors, ils doivent au moins saisir leur chance et prendre un ou deux matchs. Mais non, il va leur mettre 4-0. Je pense que LeBron, il est toujours positionné numéro 1 parce que justement, les mecs qui sont derrière lui n'ont pas encore fait quelque chose de suffisamment fort pour le déloger de sa place. C'est-à-dire que La place de numéro 1, elle est symboliquement en fait liée à ce qu'on appelle le trône.
Ilia, je vais continuer vers toi avant de redonner la parole à Madiane. Il y a un truc très intéressant que tu as pu dire. Il faut faire quelque chose de plus fort pour être dépasser LeBron. Est-ce qu'il faut faire quelque chose de plus fort contre LeBron?
Pas forcément. Pas forcément, parce que par exemple, ce que Kawhi a fait, c'était exceptionnel l'année dernière aux Raptors, mais il a fallu qu'il quitte les Raptors pour qu'on se rende compte au final qu'il était plutôt bien loti. Parce que justement, on parlait un peu du délit de faciès et de jeu lié à Harden. Je trouve par exemple que quelqu'un comme Kawhi, qui est très bien positionné dans notre classement, bénéficie justement limite par moment d'un statut de GOAT pour avoir fait des choses qui, contextuellement parlant, étaient quand même plutôt à son avantage. C'est-à-dire que, par exemple, affronter les Warriors comme il l'a fait, dans un contexte où KD et Clay sont blessés, c'est quand même autre chose que de se taper les Warriors sans Kevin Love et sans Kyrie Irving, par exemple, tu vois. C'est-à-dire que le contexte, il joue beaucoup. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui à cette époque où vraiment tout est orienté à la passion et à la puissance des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on manque de contexte. Il se passe des choses dans l'histoire, dans l'actualité de la NBA, qui pourraient être totalement différentes pour tel joueur ou telle franchise si, des fois, des petits micro-événements comme ça ne venaient pas bouleverser un peu le paysage NBA.
Je suis totalement d'accord, et par rapport à ça, ça me permet juste de dire, petit tacle, ce que j'ai pu voir après la série de playoffs, comme quoi les Kawhi auraient, entre guillemets, mis à genoux deux dynasties, à savoir le Heat de LeBron et les Warriors de Durant.
C'est ridicule.
C'est ridicule.
Quelle blague.
C'est ridicule parce que c'est complètement pas prendre en compte le fait que, alors, l'année où Kawhi affronte le Heat, ils sont en lambeaux et il y a que LeBron qui est à peu près tient debout. Et c'est des Warriors aussi en lambeaux. Enfin bref, je renferme la parenthèse. Qu'est-ce que tu peux répondre, toi, Madiane, à Ilias? Je sais que tu vas me parler de Kawhi.
Alors. Déjà, Kawhi, petit tacle, hein, c'est gratuit, mais t'as loupé ton lancer en 2013, donc tu peux pas parler.
Il hein, était calme, ça faisait 50 minutes, je suis fait
non, mais non mais, bon, Kawhi, non, mais Kawhi, dire qu'il a brisé la dynastie, enfin, les Spurs, c'est un collectif, point, et pareil, enfin, les Raptors, c'est bien mignon, mais les Raptors sont très forts, et sans lui, donc j'arrive pas à juger. Par contre, ce que je peux juger, c'est que Giannis, il est derrière. Et ça, c'est sûr, certain. Moi, Giannis, sa campagne de playoff l'an passé, moi, il y a une série qui me choque, c'est celle face aux Raptors. Parce que le petit monsieur Giannis, alors bon, cette saison, hein, c'est le MVP, ok, si vous voulez, LeBron, il va finir deuxième, à mon avis, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, les lancers francs de Giannis, c'est dingue, en fait, j'ai trouvé ça, mais ça me tue. Il y a deux joueurs dans la série Raptors Bucks qui ont eu du coup une moyenne de 10 lancers par match, Kawhi et Giannis. Kawhi en a mis 88,5%. Quel a été le pourcentage de Giannis?
42.
Non, un peu plus, 58,3%. C'est-à-dire qu'il a mis, il a perdu, enfin sur son vis-à-vis. Le nombre de points d'écart juste sur les lancers francs, c'est dingue. Il n'a pas été au niveau. Et Giannis, moi, je suis désolé, il n'est pas dans la galaxie des LeBron, des KD ou des Kawhi.
Ou en tout cas, pas encore. Ouais.
Pas encore.
Est-ce que c'est encore une question d'affrontement? Parce que, alors, certes, il y a eu un affrontement dans ces... Parce que quand j'ai parlé de manque d'affrontement, je parlais du trio LeBron, Kawhi, oui. KD. Il y a eu un affrontement Giannis Kawhi, mais on peut aussi se dire que Giannis reste jeune, il était un peu vert. Est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire qu'avec des Bucks sur une potentielle finale NBA imaginaire cette année, Giannis pourrait plus s'affirmer?
Ah bah totalement, parce que en fait, tu sais, moi j'ai cette petite analogie justement, Ben, concernant Giannis, c'est-à-dire que actuellement il est possible que ce soit le meilleur joueur NBA, même si je pense que dans l'absolu, sur le plan purement intrinsèque et individuel, en forme, ça reste Kevin Durant pour moi. D'autant que LeBron, même s'il reste très fort, il commence un petit peu à décliner. Il se réinvente. Mais j'ai l'impression surtout que pour la prise de pouvoir de Giannis, il n'y a qu'une seule chose. C'est le titre. C'est-à-dire qu'actuellement, il est un peu dans la peau du LeBron 2008-2009, ou plutôt 2009-2010, celui qui va faire un double MVP de saison régulière, qui pose des chiffres absolument incroyables. Mais en fait, on sait déjà que c'est à l'époque, moi, je considérais déjà LeBron comme le joueur le plus fort de la ligue. Je me rappelle de cette série qu'il perd face à Orlando, où il est en 37-8-8 et que bon, finalement, de par le fait que son équipe soit pas si forte que ça, il n'arrive pas à passer.
Oui, mais Jenny, c'est pas en 37-8-8 en play-off.
Justement. Et en fait, pour prendre le trône qui entre guillemets appartenait à Kobe à cette époque-là. Je pense que, par exemple, LeBron était plus fort que Kobe déjà à cette époque-là, mais tant que LeBron n'avait pas validé le titre, il ne pouvait pas s'asseoir à la place de numéro 1. Et c'est un petit peu la même chose pour Giannis.
Alors, OK, Kobe prend le MVP du final, mais LeBron est dingue. Mais Giannis, bien sûr, l'an dernier, il n'est pas bon. Pas bon sur la série décisive de playoff.
Oui, oui.
C'est pas qu'il est ultra bon et il perd parce que son équipe est moins forte, et dans ce cas, j'aurais pu pardonner, c'est qu'il n'est pas bon. Il n'est pas dedans. Donc, moi, je veux bien ton analogie, mais ça marche que si t'es fort et que t'as pas gagné. LeBron était fort et n'a pas gagné. Et du coup, Kobe lui avait envoyé ce tax et tu peux prendre les MVP, moi, je prends les MVP des finales. Mais Giannis n'a pas été au niveau
attendu. Il n'a pas validé encore. Ouais, c'est vrai.
Et si je compare les forces collectives, on fait affronter les Raptors sans Kawhi contre les Bucks, sans Giannis. Je suis pas sûr que ce sont forcément les Raptors qui gagnent. Je pense qu'ils gagnent, mais...
Ah, je pense qu'ils gagnent.
Mais je pense que c'est plutôt un 60-40 qu'un 80-20.
Ah, moi, je pense qu'il y a 4-1.
Ah ouais, moi, je pense qu'il
j'accorde
aux
Bucks un match,
moi. Sont meilleurs. Mais poursuivons jusqu'au bout l'analogie ton analogie, Ilias. Allez, on imagine un monde sans Covid-19, c'est-à-dire que le monde que tout le monde souhaite à l'heure actuelle, pour être honnête. Il y a une finale NBA, il y a des playoffs NBA, les Bucks gagne le titre contre les Clippers ou les Lakers. Vous choisissez avec un Giannis sans être historique mais dominant. Est-ce que Giannis est le meilleur joueur de la Ligue ?
Moi, je pense. Je pense que ça lui permettra de le valider, mais quand tu dis correct, ça fait quand même de lui le MVP de la finale.
Oui, et disons qu'il
Mais tu peux être MVP de la finale avec un LeBron en face qui tourne à 35 points de moyenne.
Disons Madiane qui tient la dragée haute, que ce soit LeBron ou Kawhi Leonard en face. Il tient la dragée haute. Il se fait pas, il se fait pas écraser. Il le domine pas. On est sur un même niveau de niveau de jeu.
Dans ce cas, je veux bien lui accorder.
Ouais, pareil. Moi, à armes égales, c'est-à-dire dans un contexte différent de celui de l'année dernière entre Raptors et Warriors, dans lequel, selon moi, en tout cas, Kawhi a bénéficié d'un crédit quasi sans limite. Moi, je pense que la situation se présente comme celle que tu nous as exposée, Ben, je pense que oui, on fera de Giannis le meilleur joueur de la ligue. Moi, enfin, en tout cas, je le validerai sans problème.
Donc, si je continue à me projeter, je suis Marty McFly, moi, je me projette juste à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si on prend où s'arrêtait la saison NBA et en réfléchissant que les votes des auditeurs se sont faits juste après la suspension de la saison NBA, les Bucks sont extrêmement forts. Imaginez les Bucks en finale NBA, c'est loin d'être impossible. C'est même un scénario qu'on pourrait dire probable. Il n'est pas si loin que ça, en fait, Giannis. Hein. Il est à 7 matchs. Hein. Il a 7 matchs du
3. Ouais, mais il faut qu'il nous fasse une campagne convaincante. Si tu remarques que les Bucks sont arrivés jusqu'en finale sans avoir besoin de lui, il va y avoir peut-être des bémols.
Moi, je trouve, c'est là où je suis d'accord avec Ilias, je trouve que l'aspect titre pour prendre la couronne NBA est tellement important que Giannis fait 3 premiers tours moyen correct, mais fait une finale NBA où il tient la dragée haute à un LeBron, à un Kawhi, on lui donne la couronne. Enfin, moi,
on lui donnera, mais est-ce que ce sera justifié?
Oui, parce que par exemple, contrairement à KD, KD, malheureusement, lui, il a raté son rendez-vous avec l'histoire en rejoignant les Warriors. C'est ce qui fait que, malgré ses 2 titres, c'est quelqu'un qui, même sur le plan historique, n'a pas fait forcément un énorme bond en avant. À l'heure actuelle, il est même dans certains classements derrière Curry sur le plan historique. Après, ça, c'est quelque chose qui forcément se discute. Mais justement, c'est-à-dire que à armes égales, si Giannis, par exemple, est amené à affronter des Lakers ou des Clippers au top de leur forme, sans le moindre blessé important, avec pour seul lieutenant Chris Middleton, là, franchement, c'est quelque chose que je peux lui céder sans aucun problème.
Ouais, tu veux dire qu'on parle pas de 22 points par match à 44% au tir.
Il avait gardé les armes pour la fin. Je vais conclure cette émission par, selon moi, la vraie question. Parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a une espèce de vide juridique autour de cette place de premier. C'est-à-dire qu'on va mettre LeBron, mais qu'on n'est pas sûr de ça. Est-ce que... Et imaginons que la personne en question soit Kevin Durant, Kawhi Leonard, Giannis ou LeBron, est-ce que le gagnant du prochain titre, peut-être pas, enfin bref, je vous l'ai dit, moi je pars du principe qu'il n'y a pas de saison cette année, est-ce que le gagnant de la saison 2020-2021 est automatiquement premier de ce classement dans un an et demi?
En tout cas, si c'est pas LeBron, enfin LeBron s'il gagne pas, c'est pas lui.
Oui, oui.
D'accord. Donc, saison, c'était un peu, on en parlait en off, pour moi, c'est une saison, l'année prochaine, c'est fascinant, parce que j'ai l'impression qu'on va voir beaucoup plus clair sur ce classement. Enfin, pour moi, c'est un juge de paix pour les Durant, Kawhi, Giannis, LeBron, clairement.
Ouais.
N'oubliez pas que LeBron, il va avoir 36 ans lors de la campagne de play-off de l'an prochain. Tension, c'est.
Bah, LeBron, vraiment. Enfin,
on a toujours pris LeBron pour acquis, mais là, ça commence à arriver à la date limite de consommation.
17e saison. Bah, en tout cas, c'est vraiment. En tout cas, l'enjeu n'est pas le même pour tous ces joueurs, en tout cas. Enfin, Kawhi, ça lui permettrait d'être. Champion dans trois franchises différentes. Giannis, ce serait l'occasion pour lui d'accrocher son premier titre et de faire un bond énorme en avant, que ce soit dans ce classement pour solidifier sa place de numéro 1 ou même celle des Bucks. Mais LeBron, c'est vraiment celui qui a le plus à gagner à aller chercher le prochain titre, parce que on sait quel impact ça aurait déjà sur sa carrière, mais aussi sur l'histoire, notamment en ces périodes de Last Dance.
Ouais, mais je pense que LeBron est le seul, contrairement aux autres, à s'en contrefficher de comment il gagne, il veut juste gagner.
Oui, oui, je pense aussi.
Après, je voulais juste, c'est tout bonnement égoïste de ma part, mais je voulais juste vous amener à cette conclusion, parce que moi, c'est la conclusion, en travaillant un peu cette émission, c'est la conclusion sur laquelle j'ai abouti. Le gagnant du prochain titre, entre parenthèses, je répète que selon moi, il n'y aura pas vraiment de saison, même tronquée, 2019-2020 va être une parenthèse dans l'histoire de la NBA, je pense que le gagnant du prochain vrai titre sera, le franchise player de la prochaine équipe gagnante sera couronné meilleur joueur NBA, et j'ai du mal à imaginer une NBA dans laquelle ce joueur ne soit pas LeBron, Giannis, Kawhi ou Durant.
Oui, oui, oui.
On est à peu près à ce niveau-là.
Moi, j'ai un petit meneur...
Madiane aime beaucoup Stephen Curry. Mais je...
Ah, avec l'équipe qui va se taper l'an prochain, attention.
Après, peut-être que Curry, et on va finir là-dessus, peut-être que Curry a un désavantage pour lui, parce que quand on regarde ce classement, les 4 joueurs dont on parle, 4 ailiers. Est-ce que le fait qu'il ne les joue pas aussi directement dans l'aspect visuel, ça n'a pas un petit peu un impact? Peut-être.
Ouais, c'est un impact.
Et ben, c'est là-dessus que je vais vous proposer de terminer, les gars. Avant de terminer, juste une parenthèse, parce que en brossant le classement avant de le répéter pour conclure, il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'on parle beaucoup de Giannis, on parle énormément de Giannis. Pour voir un joueur de sa conférence, il faut remonter à la 12e place quand même. C'est-à-dire que
c'est aussi quelque chose qui joue. Hein.
C'est-à-dire que quand même, c'est Joel Embiid, à part ça, c'est vide complet. Hein. Vide complet des joueurs de l'Est dans ce classement sur 20 joueurs. On a Jason Tatum, Kyrie Irving, Bradley Beal, Jimmy Butler, Joel Embiid et Giannis. 6, dont un seul dans le top 10. Ça classe un peu les choses. Hein. D'ailleurs, bon, bah, pour conclure, je vais vous rappeler ce classement. Je vous ai déjà rappelé le de 20 à 10. On va rattaquer le top 10. 9e, Damien Lillard. 8e, Luka Doncic. 7e, Stephen Curry. 6e, Kevin Durant. 5e, Anthony Davis. 4e, James Harden. 3e, Kawhi Leonard. 2e, Giannis Antetokounmpo. Et une nouvelle fois, à l'image de notre classement de la dernière fois, 1er, LeBron James. Merci pour ce débat, messieurs. Pas mal de choses ont été dites. C'est assez intéressant. Pour vous, les auditeurs, on se rapprochera jamais autant de Skip Bayless et Stephen A. Smith. Donc, si vous voulez... On ne se rapprochera jamais autant avec ce genre de débat, hein, pour être honnête. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses bien qui ont été dites. Et on voit vraiment, enfin moi c'est vraiment ça qui me fascine, c'est que ce trône est... Attends, quelqu'un... Je ne connais pas du tout Game of Thrones, mais si j'ai compris le concept, quelqu'un doit s'asseoir sur ce trône et il est vide pour l'instant.
C'est ça.
Et ben nous, on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter principalement, nous noter, surtout nous s'abonner sur les plateformes. Je vois que ça monte. Donc les gens suivent mes conseils, hein. Contrairement à la vraie vie, les gens suivent mes conseils quand je parle dans un podcast, c'est assez génial. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur SoundCloud. Petite pub entre parenthèses, sur SoundCloud, vous pouvez en profiter et sur toutes les autres plateformes pour vous abonner au Safety, le podcast NFL lancé par moi et Alan. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
Tchuss. Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.